c'est ma longue peine. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur Radio Aura Vive, la radio plus près de vous, et c'est Musique à Thème. Et dans Musique à Thème, chaque semaine, chers amis auditeurs, nous avons un invité. Non, aujourd'hui, nous n'avons pas un invité, ni deux invités, mais trois invités. Ils sont là pour nous parler d'une pièce qui s'intitule Roméo et Fanette. Oui, il va y avoir de l'amour et de l'humour dans cette émission aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir de recevoir tout d'abord Mademoiselle Pomponnette, dit Karine Pontier. Bonjour,
bonjour
Karine.
Bonjour Serge et bonjour à toutes et à tous.
Alors Pomponnette, Karine, comment je peux vous appeler? Tout d'abord, est-ce que l'on peut se tutoyer?
Ouais, ok, on se tutoie, ça va.
C'est dans le deal,
ouais.
Sinon j'arrête l'émission.
Oui.
Voilà. On aura l'émission la plus courte, une minute. Bonjour et bienvenue à toi Karine, que du bonheur, on va te découvrir
oui.
tout le long de cette émission. Et comme je le disais, tu n'es pas venue seule, tu es venue avec l'auteur de la pièce dont on va parler aujourd'hui. Il s'appelle Patrick Ruggirello. Bonjour Monsieur Ruggirello ou Patrick.
Bonjour Serge et puis tu peux m'appeler Patrick, ça sera plus simple.
Super, donc toi tu es l'auteur de cette pièce dont on va parler. Tout
Mais
ce que vous
tout.
Avez voulu savoir sur Roméo et Fanette, Marseille 1943, qui est le vrai titre. Tu es venu également Karine avec un des comédiens de cette pièce, il s'appelle Jean-Yves Neuville. Bonjour à toi Jean-Yves.
Bonjour à toi, je dis tu d'entrée, hein, sinon je sais que tu vas couper alors.
Ouais, carrément. Comment ça va?
Bah ça va très bien, voilà.
Eh bien, soyez les bienvenus dans Musique à Thème.
Merci.
Pour commencer cette émission, je vous propose eh bien, de la commencer en chanson. Marseille, Patrick, Fiori, Jacques, Veneruso et le petit clin d'œil de Jean-Jacques Goldman. Soyez les bienvenus sur Radio Aura Vive et c'est Musique à Thème.
C'est comme quand on retombe un jour sur une photo ancienne. Le papier a un peu jauni, mais les couleurs reviennent. Alors on fait les yeux fermés, un retour en arrière. Oh, j'espère que je serai toujours chez moi, à Marseille.
Et le vieux port qui semblait lancer les deux bras vers la mer. Est-ce qu'il se souvient que déjà je chantais pour lui plaire? Je ne l'ai pas aimé tous les jours, mais j'ai souffert loin de lui. Oh, j'espère que je serai toujours chez moi, à Marseille.
C'est vrai, bien souvent j'oublie la distance qui m'a fait quitter les rues de l'enfance. Je suis parti loin pour saisir ma chance, mais pas assez pour ne plus que j'y pense.
Oh, c'est comme quand on reste trop longtemps à fixer le soleil.
Ouvre les yeux doucement et les couleurs reviennent un peu plus belles, comme ces années de misère et de joie passées là-bas.
Oh, j'espère que je serai toujours
chez moi, à Marseille.
près. Bien souvent j'oublie la distance qui m'a fait quitter les rues de l'enfance. Je suis parti loin pour saisir ma chance, mais pas assez pour ne plus que j'y pense. C'est vrai, bien souvent j'oublie la distance qui m'a fait quitter les rues de l'enfance. Je suis parti loin pour saisir ma chance, mais pas assez pour ne plus que j'y pense.
Non, pas assez pour ne plus que j'y pense.
Chez moi à Marseille,
je suis chez moi à Marseille. Yeah, yeah,
yeah. Chez moi à
Marseille.
Chez moi
à Marseille.
Bonjour, c'est Michel Drucker. Écoutez Musique à thème, c'est que du bonheur.
Et c'est que du bonheur de vous retrouver, chers amis auditeurs, et c'est que du bonheur d'être en compagnie de Karine, en compagnie de Patrick et en compagnie de Jean-Yves pour nous parler de cette pièce Roméo et Fanette, Marseille, 1943. Karine, si tu le veux bien, oui. Est-ce que tu peux nous parler du pitch de cette pièce?
Du pitch, sans trop en dire. Donc, comme son titre l'indique, on est au cœur de Marseille, en 1943, donc époque de l'occupation. Et Madame Montaigu et son fils Roméo, qui sont juifs, doivent fuir Paris et trouvent refuge à l'auberge du Vieux Phare, sur le Vieux Port, dans l'auberge de Monsieur Capulet et sa fille Fanette. Et au premier coup d'œil, Roméo et Fanette tombent amoureux. Mais c'est l'histoire d'un amour impossible parce qu'on est sous l'occupation, parce que Roméo est juif et que le papa ne voit pas tout ça d'un très bon œil. Mais il y a plein d'autres personnages qui vont jouer soit les troubles faits, soit aider ce couple à s'aimer.
Alors, est-ce que c'est un petit peu un clin d'œil de la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette ?
Eh bien, totalement. Et ça, Patrick t'en parlera. Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est qu'elle s'appelait Roméo et Juliette, Marseille 1943. Et en lui faisant les yeux doux, Patrick a accepté de changer le titre parce que on voulait lui donner un caractère plus marseillais, parce que c'est vraiment de l'humour, hein, même si le pitch a l'air très grave comme ça, c'est vraiment une comédie. Et on voulait pas que les gens pensent venir voir soit une parodie de Roméo et Juliette, soit un remake de Roméo et Juliette, parce que c'est vraiment une pièce originale. Mais il vous expliquera pourquoi Roméo et Juliette à la base.
Voilà. Cette pièce, elle est jouée depuis combien de temps ?
Elle a vu le jour la première fois le 30 septembre de cette année, 2023. Non. Avec cette équipe, mais Patrick l'avait montée avec son équipe de cours de théâtre.
Patrick Ruggerello, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire cette pièce ?
Eh bien, en fait, j'ai écrit plusieurs pièces depuis pas mal de temps. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'inclure dans une de mes pièces le problème de la Shoah. Et en fait, c'est un truc qui m'avait traumatisé quand j'étais enfant. Comme d'autres choses d'ailleurs, comme par exemple l'esclavage en Afrique. Quand j'avais appris ça petit, j'étais pas d'une famille où on racontait les choses, on parlait pas. Donc moi, j'ai découvert par moi-même et ça a été un peu brutal, quoi. Ça m'avait traumatisé et toute ma vie, j'ai pensé à ça. Et je me disais, un jour, il faut que j'inclue cette histoire de la Shoah dans une de mes pièces. Et puis un Marseillais m'a dit, tu devrais écrire une pièce sur Marseille, ça serait bien. Et puis je sais pas pourquoi, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais c'est là, voilà le truc.
Pourquoi l'association, en fait, Marseille, Fanette et Roméo,
et Shakespeare,
voilà.
Mais parce que j'avais envie d'écrire un truc sur Roméo et Juliette, mais je ne savais pas du tout où les caser et comment.
Et il a fallu que Marseille soit le,
oui, et j'ai trouvé que
le
Marseille,
point crucial.
Oui, oui, j'ai trouvé que Marseille, c'était en plus, pendant la guerre, Marseille, c'est un peu particulier, c'est la zone libre. Mmh. Et en même temps, les Juifs, eux, devaient se cacher quand même, quoi. Donc, les Français étaient plutôt tranquilles à ce moment-là, mais les Juifs qui fuyaient le Nord étaient en danger, devaient se planquer. Donc, c'est ça que j'ai raconté. L'histoire de jeunes Juifs qui se planquent, qui font tout, qui ont un courage exceptionnel, qui font tout pour s'en sortir. Et voilà, et puis c'est une histoire d'amour aussi qui est très belle.
C'est surtout une histoire d'amour qu'il faut retenir.
Oui.
Et dans un milieu de guerre.
C'est ça.
Cette pièce, tu l'as écrite en combien de temps ?
En général, les pièces, je mets 2 mois à les écrire.
Et celle-ci, pareil ?
Pareil, oui.
D'accord.
Pareil. Alors, par contre, avant d'écrire la pièce, je mets 2 mois à l'écrire. Pour une pièce comme celle-ci, j'ai fait beaucoup de recherches.
D'accord. Ce que j'allais poser, en fait, ça a été quoi tes références ?
Alors, la première recherche, j'ai voulu coller au plus près de la pièce de Shakespeare. C'est-à-dire que même si dans Shakespeare, il y a 28 personnages, donc vous imaginez bien que c'est impossible à faire de nos jours, quoi. Donc j'ai réussi à descendre à 8, c'est ça ? On a 8 personnages. Et j'ai essayé de suivre la trame de la pièce de Shakespeare. Et j'ai essayé de me rapprocher au plus près. Dans la pièce de Shakespeare, il y a 2 tiers de comédie. Et le dernier tiers est assez dramatique. Et là, j'ai essayé de faire pareil, quoi. Je pense que j'ai bien suivi la chose. Et...
Juste une petite parenthèse, ça me vient à l'esprit là d'un coup. Shakespeare, ça termine pas très très bien.
Ah non.
Est-ce que dans cette pièce, ça termine un petit peu mieux, sans en dire trop ?
Eh bien, on ne sait pas.
Ah d'accord, on veut laisser le suspense jusqu'au bout.
Oui, oui. D'accord. Chacun y verra selon ce qu'il ressent à ce moment-là, quelle est pour lui la fin.
Que non, ce qu'il veut dire par là, est-ce que la fin est aussi dramatique que l'autre quelque part ?
C'est ça.
Oui.
Oui, ça c'est sûr.
Oui. J'ai suivi la pièce. J'ai vraiment suivi la pièce. Donc à la fin, ça finit comme ça, même si Pomponnette a su rehausser cette histoire de très triste par de l'humour.
Est-ce que on peut considérer cette pièce comme, je le mets dans des catégories, comédie de boulevard, dramaturge ? Comment on peut la classifier, cette pièce ?
C'est une comédie,
c'est une comédie, oui.
Mais... avec de l'émotion, voilà. Mais c'est une comédie.
Au théâtre, on ne dit pas ça, mais si c'était au cinéma, on dirait que c'est une comédie dramatique.
Ouais.
Voilà. D'accord. Oui. On peut dire aussi, pour le théâtre, c'est une
comédie dramatique.
Par rapport à ton parcours, Patrick, tu as écrit combien de...
J'ai écrit 7 ou 8 pièces, et j'en ai monté 5.
Toujours en tant qu'auteur ?
Oui, je suis auteur, metteur en scène, comédien. Et d'ailleurs, actuellement, je suis dans une autre pièce qui s'appelle Godot est arrivé, que j'ai écrit. Je joue avec Pomponnette,
d'accord,
notre star.
Alors, et... Godot est arrivé, ça me fait penser à Patrick Coppolani, peut-être ?
Mais yes, tout à fait, c'est lui qui joue avec nous.
D'accord.
Tu le connais ?
Un petit peu.
D'accord, oui.
Donc, c'est une pièce, en 2 mots, puisqu'on parle de cette pièce. Godot.
Godot est arrivé, c'est l'histoire de 3 SDF qui sont dans la rue. C'est aussi une comédie dramatique. C'est l'histoire de 2 gars dont le rôle que j'interprète, le clochard, se prend pour un empereur. Et il a un fidèle compagnon qui s'appelle Gamel, qui est un petit peu naïf. Et ils sont vraiment malheureux tous les deux. Mais ils vont rencontrer une fille qui s'appelle Germaine, SDF elle aussi, et qui va leur redonner le goût de vivre. Et c'est Pomponnette qui l'interprète.
Voilà, Karine Pontier qui est avec nous. Karine, on disait tout à l'heure, il y a 8 comédiens sur scène.
Alors, 7 comédiens sur scène et 8 rôles.
Ah.
Ok.
Ok. Bon, on en parlera après.
D'accord.
Qui a fait le casting ?
Il n'y a pas eu de casting. Je t'explique, Serge. En fait, on est 6 comédiens à être de la même compagnie. Par exemple, Jean-Yves, que tu as présenté tout à l'heure, ça fait 7 ans qu'on joue ensemble. Et cette compagnie, qui s'appelait la compagnie du Petit Alcazar, s'est arrêtée pour diverses raisons. Et nous, on a souhaité continuer l'aventure. Donc, c'est vraiment une aventure d'amis.
Ah, de coup, enfin, voilà.
C'est ça. Et puis, moi, je me suis souvenue de Patrick Ruggirello, qui écrivait des pièces sympas. Je l'ai appelé, je lui dis, t'as pas une pièce à 6, à 7, à 8 ? Et il m'envoie, donc, à l'époque, Roméo et Juliette, Marseille 1943. Et je la lis. je dis rien, je l'envoie par mail à chacun. Et en fait, ça a été le coup de foudre et on s'est tout de suite identifié un personnage chacun. Et donc, il nous manquait un rôle et là, on a fait un casting. Voilà, mais juste pour trouver un rôle.
Donc, en fait, cette pièce, elle existe depuis le mois d'octobre, tu disais.
Oui, fin septembre 2023.
Mais la troupe se connaît depuis
Pour les plus vieux, 7 ans, ça va de 7 ans à 2 ans.
Avant Roméo et Fanette, Marseille 1943, combien il y a eu de pièces jouées?
On en a joué 5 ensemble avec Jean-Yves. Ouais.
Pomponette, alors ton rôle?
Mon rôle, alors je suis metteur en scène déjà.
Très bien.
Et je joue le rôle de Rose. Rose qui est une prostituée, anciennement la nourrice de Fanette et qui est un peu sa confidente et qui a des relations intéressantes et notamment elle a une relation avec un curé défroqué qui va pouvoir aider les tourtereaux peut-être à se marier.
D'accord, voilà. Il y a une vraie histoire d'amour, mais on parle de 1943, période de guerre, au niveau de... Du niveau scénique, est-ce que l'on ressent cette atmosphère de guerre? Est-ce que l'on ressent, parce qu'on parle plus d'une histoire d'amour qu'une histoire de guerre, alors que dans le titre, il est bien dit qu'il y a Roméo, Fanette et Marseille 1943.
Elle est très équilibrée cette pièce parce que à la fois on rit et de bon cœur et les personnages oublient qu'ils sont en guerre et puis dans les dialogues ça revient qu'on est sous l'occupation, que peut-être les Américains vont arriver pour nous sauver, etc. Et ce poids de l'antisémitisme, parce qu'en fait le neveu de l'aubergiste Thibault est d'ailleurs un collabo. Voilà, donc tout au long de la pièce, on sent cette pesanteur et en même temps, on rit. Pourquoi ? Parce que c'est à Marseille que les personnages ont la gouaille marseillaise.
On va parler dans un instant avec Jean-Yves, on va parler de son rôle. On va bien sûr continuer à parler de Roméo et Fanette, Marseille 1943. Alors, ça nous donne l'envie d'aimer,
wow,
tout simplement.
Quel talent, Serge !
L'amour tellement possible, l'amour à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment, c'est tellement rien. Il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous dès demain, ce sera nous le chemin. Oh,
Musique à thème, c'est que du bonheur.
Et c'est que du bonheur dans Musique à thème aujourd'hui de recevoir Karine, Patrick et Jean-Yves pour nous parler de cette pièce Roméo et Fanette, Marseille 1943. Alors on va résumer un petit peu, si vous voulez bien, l'histoire de cette pièce. C'est l'histoire amoureuse de Roméo et Fanette. Ça se passe pendant la période de guerre 1943. Roméo est donc amoureux de Fanette. Est-ce qu'il y a une pression dans cet amour? Je pose la question.
Énorme, 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 parce que les parents sont contre. Et
à cause des événements.
C'est ça. Et à cette époque-là, l'aval des parents, c'était essentiel. On ne s'opposait pas aux parents.
Roméo et Juliette, donc cette pièce qui sera très très prochainement sur les planches de
la Comédie de Marseille, ex-Quai du Rire sur le Vieux-Port.
Oui.
Et la Comédie des Suds à plan de campagne.
Et puis peut-être une tournée nationale, européenne, mondiale, qui Mais sait.
Si un producteur nous écoute.
Jean-Yves.
Oui.
Neuville. Alors, on va parler avec toi. Quel est ton rôle dans cette pièce?
Alors déjà, il faut préciser que ce n'est pas un rôle, c'est trois rôles.
Mais tu es payé trois fois plus que
voilà,
les autres.
Trois fois plus que les autres. Ça leur coûte cher. Mais il faut préciser, alors je vais essayer d'être bien précis justement, parce que c'est un peu comme les paquets de lessive en fait. Il y a un rôle qui est deux en un, c'est-à-dire que j'ai un rôle de docker. Et dans ce rôle, ce docker va se déguiser pour jouer un autre rôle. Alors, est-ce que je dois dire en quoi je me déguise
Laissons le
suspense. Pour garder le suspense, voilà.
Laissons le suspense.
Disons que pour ce rôle dans lequel je me déguise, j'ai dû prendre et apprendre l'accent allemand, ce qui n'est pas évident. Voilà, donc c'était la...
Mais je crois en plus que tu oublies le rôle que tu joues, parce que c'est un 3 en 1. Il n'y a pas un autre accent que tu as dû apprendre
Mais je veux dire que dans le rôle du docker, c'est le même personnage qui joue un rôle. Après, j'ai un donc
mais le docker se fait aussi passer pour un corse.
Ah oui, oui, ah oui, ah, c'est ouais. Bon, si tu veux, oui. C'est vrai que j'ai eu le problème que j'ai eu.
Les enfin, femmes ont toujours raison.
C'est pas un problème, c'était un plaisir. Mais j'ai eu très peur parce que j'avais très peur de ne pas y arriver. Il a fallu que je prenne l'accent corse. Et alors là, c'est pas évident. Alors l'accent corse, après.
Tu n'as pas peur de la mafia, toi.
Sur scène, non. Après, il a fallu donc prendre l'accent allemand. Et puis après, ben, bien sûr, il a fallu que je prenne l'accent de Marseille parce que le prêtre que je joue, qui est un prêtre plutôt défroqué, a un accent de Marseille à couper au couteau. Et il paraît que je m'en sors pas trop mal. Voilà.
Ça t'est déjà arrivé de faire des petites erreurs ou d'essayer de faire des amalgames entre une voix et une autre?
Oui, oui, justement. C'est qu'à la fin de la scène de l'allemand, je redeviens docker et donc j'ai quelques phrases à dire et il m'arrive souvent de les dire en prenant l'accent allemand. Alors vite, je me dis... Oh, mince, il faut que je tourne
et,
la chose.
Et comme il aime la difficulté, il nous fait des fois l'accent allemand avec un accent british.
Ah oui, ça.
Et là, on lui dit là, tu dérapes.
Donc je me perds dans les accents et mais c'est vraiment un plaisir de le faire et surtout je pensais pas y arriver quoi.
Alors est-ce que c'est fait exprès qu'il joue trois rôles ou c'est bien il manque des acteurs?
Alors non, il manque pas du tout des acteurs. Oui, c'est fait exprès parce que Jean-Yves est talentueux. Que je savais si. Qu'il y arriverait. Et d'ailleurs, il nous le démontre à chaque représentation. Il est extrêmement applaudi et les spectateurs ne s'y trompent pas. Le curé, en plus d'avoir l'accent marseillais, je voulais qu'il soit complètement délirant. Et le curé, il danse. Et Jean-Yves est aussi chanteur et danseur.
D'accord.
Donc il nous fait toute une chorégraphie qu'il s'est imaginée lui-même. Et non, c'est vraiment pas un hasard.
Jean-Yves, oui. Comment tu as rencontré l'équipe avec qui tu joues?
J'ai été recruté par Marius Carmo pour jouer une pièce qui s'appelait Le Bar de la Marine, qui était un hommage à Pagnol. Voilà. Une très 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 belle pièce, très bonne pièce, quoi, dans laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer le rôle de, entre guillemets, de monsieur Brun, qui a changé de nom pour des histoires de droits d'auteur et autres, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce rôle. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont partis, d'autres qui sont venus, etc., etc., jusqu'au jour où Karine est arrivée, quoi. Et ça a été une bonne recrue, quoi. Donc après on a fait une autre pièce ensemble et après on a fait un autre spectacle que l'on peut pas vraiment appeler de pièce parce que c'était plusieurs sketchs. Ça s'appelait Les Chroniques. Avec tout ça on a fait Avignon, donc on a déjà vécu aussi ensemble pendant 3 semaines. Ça a été vraiment très 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 fluctuant et très très enrichissant ce genre de rapport, quoi. C'est presque comme une colonie de vacances. Et puis comme elle vous l'a dit et comme le disait d'ailleurs l'auteur du Bar de la Marine, les acteurs entre eux c'est comme des histoires d'amour et puis un jour l'amour
non,
ça
non,
se
non, vous avez signé un pacte d'amitié à vie.
Voilà. Donc on s'est retrouvés avec
Karine. Jean-Yves, tu es intermittent du spectacle?
Pas du tout.
Pas du tout. Tu as un métier à côté?
Maintenant, j'en ai plus vraiment parce que je suis à la retraite.
D'accord.
Mais j'ai fait ça en parallèle, ce qui, j'ai toujours dit, est un second métier.
D'accord. Intermittente du spectacle,
non,
Karine?
Non, je
plus.
Suis kinésithérapeute.
Tu es kiné. Tu as mal au dos?
Ça c'est le coup classique à chaque fois.
Ouais, écoute, il y a un trou de souris, j'essaie d'en faire dedans. D'accord. Et toi, Patrick, tu as toujours été auteur. Tu disais combien de livres, tu me disais tout à l'heure, tu as déjà écrit?
J'ai écrit 7 pièces de théâtre et j'en ai monté 5.
Parmi toutes celles que tu as écrites, quelle est celle qui t'a le plus sensibilisé ou celle que tu as le plus à cœur?
Je crois que c'est Roméo et Fanette, Marseille 1943, que j'ai le plus à cœur.
Par rapport à l'histoire, par rapport à l'amour qu'il y a dans cette histoire?
En fait, c'est la dernière pièce que j'ai écrite aussi. Je crois que j'ai réussi vraiment à faire un truc un peu encore mieux que ce que je faisais avant. J'ai bien maîtrisé. Je trouve qu'elle est bien maîtrisée, cette pièce. J'ai réussi à l'amener au bout. Et c'était pas évident parce que avec autant de personnages, avec une histoire complexe, c'était pas évident. Et bon, on l'a fait. On l'a fait avec cette équipe.
Combien d'heures de répétition?
J'en ai aucune idée.
Ça a été un long travail.
tu parles de répétition, Serge, mais le premier des apprentissages, on le fait seul en tant que comédien, c'est apprendre le texte et le maîtriser sur le bout des doigts. C'est comme ça qu'après on peut jouer, qu'on peut savoir le metteur en scène quel jeu il veut. Je peux pas te dire, je peux pas quantifier, ça a été très bon enfant.
Que je sais que souvent les artistes font ce qu'on appelle une répétition à l'italienne.
C'est ça.
Est-ce que c'est votre cas ?
Oui, on en fait toujours une avant chaque représentation. Et puis, nous, on est des passionnés. On a à cœur d'être parfait. Et je crois qu'on rajoute toujours quelque chose à chaque représentation. Parce que dès qu'on maîtrise quelque chose, on dit, bête, on peut rajouter ce jeu de scène, etc. Et c'est ça qui est génial. Même si je suis le metteur en scène et que j'ai tranché, des fois, mais je leur ai demandé leur avis. Je vous parlais du curé, c'est Jean-Yves qui a fait sa choré, et moi, des mois, j'étais dans, non, c'est mieux comme ça, etc. Ils m'ont tous fait des propositions, et puis de toute façon, je les connais très bien, ces comédiens, je sais tout à fait de quoi ils sont capables. Et donc voilà, oui, j'ai tranché parce que ben, il faut bien quelqu'un qui tranche, hein, sinon c'est la foire d'empoigne, mais voilà, mais c'est vraiment une histoire de copains.
Oui, moi je voudrais juste rajouter un truc par rapport à ce qu'elle vient de dire, c'est qu'on est sorti d'une ancienne équipe où on était très serré, quoi, enfin par le metteur en scène, on ne pouvait pas lever le bras en l'air s'il fallait le mettre en bas, enfin c'était là on est chacun dépendant de notre rôle. Bien entendu, Karine, comme elle l'a dit, elle tranche de temps en temps si un truc ne va pas et si on n'a pas le recul sur soi-même, mais on est libre. Et moi, c'est ce que beaucoup de gens qui sont venus me voir avant et qui sont venus me voir pendant cette pièce m'ont dit, mais franchement, tu es plus créatif, tu te lâches plus, parce que je sais qu'on peut faire, je dirais pas ce qu'on veut, mais presque, quoi. Et là, ça, c'est la grande force de Karine qui sait utiliser le potentiel de chacun. Voilà.
La pièce s'appelle Roméo et Fanette, Marseille 1943. Nos invités, Karine Pantier, Patrick Ruggirello et puis Jean-Yves Neuville. Il y a d'autres comédiens, on va en parler juste après.
Okay.
Après avoir écouté une chanson d'un monsieur qui s'appelle Grand Corps Malade. Une chanson qui s'appelle Roméo et Juliette et qui est carrément un miroir de votre pièce. Bien sûr, ce n'est pas dans les années 43, c'est dans les années 2000, mais on peut dire que c'est un petit clin d'œil à votre pièce. Voici Monsieur Grand Corps Malade.
Habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3, Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour, quand ils se voient, grandit dans leur regard une envie de partage. C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps. Ils s'embrassent comme des fous, sans peur du vent et du froid, car l'amour a ses saisons que la raison ignore. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo, et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête. Et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro. Car l'amour a ses maisons que les darons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Le père de Roméo est vénère, il a des soupçons. La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Mais Roméo argumente et résiste aux coups de pression. On s'en fout, papa, qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle. Alors l'amour reste clandé dès que le père tourne le dos. Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Pour elle, c'est sandwich au grec et cheese au McDo. Car l'amour a ses liaisons que les bifetons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat internet. La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir. Roméo galère dans le hall du bâtiment 3. Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore. Sa princesse est tout près mais retenue sous son toit. Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore. Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent à croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort. Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare. Car l'amour a ses horizons que les poisons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans un orage réactionnaire et insultant. Un amour et deux enfants en avance sur leur temps.
Musique à thème, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur.
C'est que du bonheur. Oui, c'est vrai, je le dis souvent, c'est que du bonheur, mais c'est notre marque de fabrique, Musique à thème. C'est que du bonheur, ou de vous apporter du bonheur chez vous, que vous soyez dans votre voiture, à la maison, ou bien en vacances, pourquoi pas. En tout cas, le plaisir partagé avec vous, chers amis auditeurs et nos invités, Karine Pontier, Patrick Ruggirello et Jean-Yves Neuville. Mais est-ce que vous pouvez nous parler des artistes qui vous accompagnent dans cette pièce?
Oui, bien sûr. Alors, il y a Roméo, d'abord.
Qui est Roméo?
Mais Roméo, c'est Jérôme Signetti, un comédien avec qui on joue depuis 4 à 5 ans maintenant, avec Jean-Yves. Ensuite, il y a Fanette, Lisa Nocera. Ça, c'est la petite jeunette qui est un peu plus récente. On a joué à peu près 2 ans avec elle. Donc, la mère de Roméo, Madame Montaigu, Véronique Bonventre, avec qui on a beaucoup partagé la scène, Jean-Yves et moi, en peu de temps, en 3 ans, mais ça a été très dense, puisqu'on a fait, comme le disait Jean-Yves, un Avignon avec elle, donc 3 semaines et demie Avignon, où on a joué 3 fois par jour pendant 3 semaines et demie.
Ah ouais.
3 pièces par jour et 3 pièces différentes. Voilà. Donc, voilà, avec Véro et Jean-Yves, on est solide et on se connaît bien sur scène. Et pas que, puisqu'on se supportait aussi dans une maison là-bas à Avignon. Ensuite, il y a le père de Fanette, qui est donc Jean-Michel Fernandez, un comédien qui est avec nous aussi à peu près depuis 2-3 ans, mais qui a de la bouteille. Enfin, excusez-moi, de la bouteille. Il était d'ailleurs patron de bar pendant très longtemps sur Marseille. Il a tenu une brasserie. Il a toujours baigné dans le théâtre. C'est un autodidacte. Il a fait du théâtre, du chant lyrique. Il a même écrit une pièce. Enfin, voilà, Jean-Michel Fernandez. Et ensuite, qui c'est qui nous manque? Ah ben oui, eh ben, l'horreur, le neveu collabo. Le neveu collabo, c'est Thibault. Il n'est pas très méchant, il est surtout très bête. Hein, et c'est ce qui le rend méchant. Voilà. Et il croit qu'en collaborant, il va avoir une limousine, un hôtel sur la Canebière qui va lui être offert. Et ça, c'est Johan Murat. Ça, c'est le tout nouveau. C'est le casting dont je t'ai parlé au début. C'est le seul comédien qu'on a casté. Et on est trop fort pour les castings parce que c'est un super comédien et c'est un super compagnon. Il s'est complètement fondu dans notre troupe. Il a la même mentalité, on se régale tous les 7.
Est-ce qu'il y a des remplaçants?
Alors non, il n'y a pas de remplaçants et on y a longtemps réfléchi parce que il y a des fois à 7 sur scène où on refuse des dates, mais tant pis. En tout cas, moi je leur ai dit que la pièce elle était montée, s'ils voulaient des remplaçants, ils se débrouillent, mais moi je
non,
veux
ça
travailler qu'avec
que quelqu'un tombe malade, une petite grippe, un petit truc.
Eh ben tant pis, parce qu'elle n'aura pas la même saveur.
Voilà, mais vous n'aurez pas le droit d'être malade, les comédiens.
Non,
voilà,
non. Il y a quand même un 8e larron dont j'aimerais parler, parce qu'on a notre régisseur, Frédéric Renon. C'est très important, le régisseur. Ouais. On a un très très gros travail de son et de lumière dans cette pièce. Et on part toujours avec notre régisseur à nous, voilà, pour être sûr que les effets soient au bon endroit. C'est très important, le son pour nous. On est toujours porté par la musique dans les pièces.
Les costumes de Donald Cardwell.
Non, une de nos comédiennes, Véro, elle est couturière, donc elle nous aide un peu. Voilà. Jean-Michel Fernandez, donc il joue l'aubergiste, est aussi bricoleur, donc lui c'est les décors.
En fait, c'est le côté familial.
Exactement.
Chacun met la main à la pâte. Qui est le metteur en scène?
C'est moi.
Très bien. Qui est l'auteur?
C'est lui. C'est Patrick Ruggirello.
Voilà, Patrick Ruggirello.
C'est moi.
Patrick, c'est quelqu'un de la troupe qui est venu te demander cette pièce?
Non, c'est Karine qui me connaissait, on se connaissait un peu depuis quelques temps. Elle savait que j'écrivais des pièces et puis comme elle en cherchait une, je lui en ai proposé plusieurs.
Tu t'es renseigné sur les comédiens?
Mais je les connaissais un petit peu tous quand même.
Ah ouais?
Oui, je les connaissais donc, un petit peu tous.
Donc, carte blanche d'entrée.
Oui. Puis je connaissais Karine aussi très bien et donc carte blanche, oui, effectivement. Oui. Et puis, en fait, je les connaissais un petit peu tous, sans être plus que ça, mais maintenant, on est copains et ça, c'est super.
Est-ce que tu as un regard sur cette pièce?
Ben oui, bien
Comment
sûr.
Comment tu l'as ressenti?
J'ai été surpris parce qu'en fait, cette pièce, je l'avais montée déjà, moi, avant. Et par contre, je la jouais dans le Var, pratiquement. Et elle était différente, elle était plus dramatique, la pièce que j'avais jouée et montée. Et là, ils en ont fait quelque chose encore plus dans la galéjade, dans le... Il y a du Marcel Pagnol aussi dans cette pièce, il n'y a pas que du Shakespeare, quoi. Ils sont vraiment drôles tous. J'ai beaucoup ri. Voilà.
Ils arrivent à passer un message très
dramatique
oui. avec saupoudré d'humour.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et c'est ce qui fait un petit peu le charme.
Et puis, la première fois que j'ai monté cette pièce, j'ai monté avec des gens du Var qui n'étaient pas spécialement des gens de Marseille. Tandis que là, ce sont tous des Marseillais. Et du coup, dans leur rôle, ils sont bien. Évidemment.
Karine.
Oui.
Alors, je vois, tu es une fille qui a toujours le sourire. Dans la vie, en fait, s'il n'y avait pas eu cette pièce, tu aurais aimé faire quoi?
Alors,
À part le théâtre.
Ouais, mais je t'ai dit que j'étais kiné.
Ouais.
C'est un métier qui me comble. Je suis kiné en maison de retraite. Voilà, non, il y aurait eu le théâtre, il y aurait eu quelque chose, j'ai toujours été dans l'artistique, mes petits patients, c'est mes premiers spectateurs, je suis toujours en train de leur faire le pire.
Il y a une petite anecdote avec le lieu où tu travailles.
Oui, en fait, donc j'ai deux mi-temps sur deux maisons de retraite, dont une qui est à côté du Palais Longchamp, qui s'appelle la résidence Longchamp, je leur fais la pub, parce qu'en fait, la directrice nous laisse tous les lundis soirs répéter de 18h à 20h30. Le deal, c'est qu'elle nous prête ce lieu tout à fait gratuitement, qui est juste attenant au restaurant, et donc avant le repas et après le repas, les personnes âgées résidentes peuvent venir nous voir, nous apostropher, nous applaudir, on leur demande leur avis. Et puis, une à deux fois par an, on leur fait un spectacle. On leur a joué Roméo et Fanette, Marseille 1943. Et on s'adapte aussi, on leur fait des petits sketchs saupoudrés de chansons parce qu'il y a beaucoup de chanteurs dans la troupe. Et voilà, on leur fait le spectacle. Et on se régale.
On fait un petit clin d'œil, il y a une personne qui est la super mamie qu'on a reçue il n'y a pas longtemps d'ailleurs.
Voilà. Jeannine Biancotto, qui est super mamie Bouche du Rhône 2023-2024, qui est l'amie donc d'une des comédiennes qui joue avec nous, Véronique Bonventre. Et donc, on a rencontré Jeannine, qui a été élue grâce à un sketch qui s'appelle Elle joue Manon, qui en fait, c'est la fable de la fontaine, la cigale et la fourmi, marseillisée, avec beaucoup de gouailles. Et d'ailleurs, elle est venue faire ce sketch dans l'un des spectacles qu'on a fait en maison de retraite. Les résidentes étaient ravies parce qu'elle est arrivée avec sa belle robe, son diadème. Elle est super, Jeannine.
Et son écharpe.
Et son écharpe.
Je peux t'assurer que même à la radio, alors que c'est pas filmée, elle est venue quand même avec son écharpe.
Ah bah oui.
Allez, c'est un petit clin d'œil, on lui fait un petit coucou
à Jeannine Biancotto.
Super mamie, ouais. Jeannine. Jean-Yves, je vais te poser la même question. Tu ne serais pas comédien, tu ferais quoi? Tu aimerais faire quoi?
Ben moi, ça a été dès ma plus tendre enfance une passion pour la chanson d'abord.
Tu chantes?
Ah oui, je chante.
Chanson française ?
Chanson française, chanson anglaise, italienne, même espagnole.
Tu as déjà composé une chanson ?
Je fais des chansons, j'en ai composé une d'ailleurs qu'on a chantée à l'EHPAD.
On peut la retrouver quelque part ?
Ah non, elle n'est pas enregistrée.
Il n'y a pas une maquette, il n'y a rien.
Non, c'est juste dans mes tiroirs.
Eh bien, on va aller chez toi chercher des tiroirs.
Ouais.
Voilà, oui.
Tu aurais pu l'amener.
Oui.
Ça aurait été bien.
J'en ai écrit quelques-unes. Et donc, moi, ma base, c'est la chanson, quoi.
D'accord.
Donc,
quel est ton chanteur préféré ?
Mon chanteur préféré ?
Si tu as comme ça, là, voilà, je t'offre un billet pour aller voir un spectacle, même d'une personne qui n'existe plus.
Ah voilà, je pense qu'il est peut-être mort.
J'ai pas un chanteur préféré, disons que celui qui correspond le plus à ma voix, à ma façon d'être, etc. On va dire que c'est Johnny. Ouais. Quoi. Voilà. Après, j'en ai plein d'autres. J'ai Julien Clerc.
Attends. Moi, je ne crois que ce que j'entends.
Ah oui.
Allez.
Et alors, qu'est-ce qui...
Coucou.
Tu veux qu'on fasse un jeu et que tu perdes.
Je chante, c'est ça ?
Voilà.
Qu'on me donne l'obscurité puis la lumière. Qu'on me donne la fin à la fin et le festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci.
On est parti en
toutes
karaoké.
Ces choses qui avaient un prix. Qui donnent envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie. L'envie d'avoir envie. Qu'on allume ma vie.
Bravo. Allez, on va t'applaudir.
On a fait court, hein.
Hey. Bon, alors, bienvenue à The Voice.
Ah ben, merci. Oui, voilà. Je ne crois pas qu'il me voudrait dans The Voice. Hein.
Mais moi, j'ai retourné mon fauteuil. Voilà. Allez, on est toujours en compagnie de nos invités pour parler de cette pièce. Roméo et Fanette, Marseille 1943. Vous avez un nom de troupe, au fait ?
Oui, la Compagnie des Alibofi.
La Compagnie des Alibofi.
Tu sais ce que c'est les Alibofi, Serge ?
Oui, c'est les Rojones.
C'est ça, ouais, en provençal.
On va continuer en chanson avec un monsieur qui s'appelle Bourville, qui interprète une chanson qui s'appelle La Tendresse. Karine, il y a une explication à cette chanson.
Il y a une explication, il y a une double explication. La première explication, c'est qu'elle clôture notre spectacle. Et je ne vous dirai pas pourquoi. Voilà, vous comprendrez pourquoi, pas l'amour, mais la tendresse. Et bizarrement, donc je joue aussi Godot est arrivé du même auteur, Patrick Ruggiero, et avec Patrick Coppolani. Et en fait, c'est très bizarre, quand je suis arrivée dans l'aventure, ils changeaient une des musiques que je dois fredonner, et ils m'ont demandé de fredonner La Tendresse de Bourville. Et finalement, les deux pièces se rejoignent avec cette musique, pour des raisons différentes.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien.
Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
C'était Musique à Thème.
Attention, on a fait l'émission Musique à Thème
avec Céline.
On a fait l'émission Musique à Thème.
Ouais,
le temps passe trop vite, mais peut-être qu'il va falloir revenir.
Oui,
voilà, avec plaisir. Voilà. Allez, on va bientôt se quitter, mais avant ça, une petite question à chacun. Est-ce qu'il y a, Patrick Ruggerillo, des projets à venir ?
Le prochain projet que j'ai à venir, c'est de remonter une pièce que j'ai écrite il y a un moment, qui a été jouée il y a quelques années, et qui s'appelle « L'enfer, c'est les autres ». C'est une parodie de la pièce de Jean-Paul Sartre, Huis clos. Et je risque de jouer cette pièce. Pour l'instant, c'est juste un projet, puisqu'on parle de projet.
Hein,
avec Patrick Coppolani de nouveau et Pomponette.
Très bien, on en reparlera sur les ondes de Radio Ravive.
Ce sera volontiers.
Avec grand plaisir, monsieur Jean-Yves Neuville.
Ben, moi, les projets, ils sont déjà, on va dire, concrétisés.
Karine.
Eh bien, moi, mes projets, c'est que je serais ravie de jouer L'Enfer, c'est les autres, avec Patrick Ruggerillo et Patrick Coppolani, et de continuer l'aventure Godot est arrivé. J'écris, moi aussi. J'avais, à l'époque, un one show que je ne peux plus jouer parce que je n'ai plus le droit je n'ai plus les droits d'auteur. Donc, j'écris pour moi-même. J'écris aussi avec une autre personne, mais ça, c'est vraiment un projet et pour l'instant je ne peux pas en dire plus. Et je me suis aussi essayé dernièrement à la présentation de soirée, ça a été très bien et j'ai d'autres propositions qui arrivent du coup. Voilà.
Super. Présentation donc, de soirée.
Oui, nous avons fait le 2 février avec la compagnie Les Alibofi un gala du souvenir sur la scène du Comédia d'Aubagne qui pour 3 mousquetaires disparus de la culture aubagnaise. Donc voilà, ça lui a beaucoup plu, elle a d'autres projets. J'ai rencontré aussi d'autres personnes qui ont des projets et qui ont aimé ma façon de présenter comique. Voilà.
D'accord, moi je pensais que tu allais devenir animatrice, présentatrice radio. Je me suis dit, ça y est, il y a de la concurrence dans l'air.
Alors justement, oui Serge, je voulais t'en parler.
Oui.
Voilà, j'ai croisé du monde à l'extérieur qui m'a dit, bon, on voudrait que Serge... Il s'en aille et on a pensé à... Non, je plaisante.
Mais moi, je laisse la place à qui veut. En tout cas, moi, peut-être j'ai un nouveau projet, c'est de te remplacer en tant que comédien.
En tant que Rose, prostituée, ancienne nourrice. Eh bien, écoute...
Pas de soucis, j'ai pas de honte.
Chiche.
Bien, avant de se quitter, je vais vous laisser une minute à tous les trois pour une carte blanche et on va commencer par toi, Jean-Yves.
Eh ben moi je voudrais simplement dire que le bonheur est sur scène en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne, je crois que si les gens apprécient tellement cette pièce à la sortie, c'est parce qu'il y a une union entre les acteurs que nous sommes et une union entre les personnes en dehors de la scène que nous sommes aussi. Donc ce qui fait un amalgame très riche et qui donne une force à cette pièce que je n'ai jamais connue auparavant dans aucune autre troupe. Voilà.
Merci Jean-Yves. Patrick.
Mais écoutez, moi je finirai par dire que j'invite vraiment les gens à aller voir cette pièce parce que d'abord c'est une histoire qui se passe à Marseille, sur le vieux port, avec des Marseillais. Ce sont les ancêtres des Marseillais, puisque ce sont nos arrière-grands-parents, nos grands-parents. Cette histoire, elle est drôle, interprétée par une troupe qui est vraiment pleine d'énergie. On apprend des choses sur la pièce, sur l'époque, le rôle des choses qui se sont passées entre les Juifs à Marseille, les nazis, les collaborateurs, et puis le peuple aussi, et la vie, parce qu'ils vivaient quand même malgré tout.
Karine ?
Eh bien, alors je vous rappelle ce que vous allez venir voir. Roméo et Fanette, Marseille 1943, au cœur de Marseille. Roméo et sa mère, Madame Montaigu, doivent quitter Paris, fuir parce qu'ils sont juifs. Et ils sont accueillis à l'auberge du Vieux Phare par Monsieur Capulet et sa fille Fanette. Et au premier regard, Roméo et Fanette tombent amoureux et il s'ensuit toute une suite de péripéties parce que c'est une comédie drôle, émouvante, avec des personnages pittoresques à la Pagnole.
Voilà, tout est dit. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à vous toutes et à vous tous. Shalom les trottes et bon baiser de musique à thème. À la semaine prochaine, bye bye.
Merci, au revoir.
On dirait que même. c'est que du bonheur.